avant le lever du soleil. Ô ciel au-dessus de moi, ciel clair, ciel profond, abîme de lumière, en te contemplant, je frissonne d'un désir divin. Me jeter à ta hauteur, c'est là ma profondeur. M'abriter sous ta pureté, c'est là mon innocence. Le Dieu est voilé par sa beauté. C'est ainsi que tu caches tes étoiles. Tu ne parles point. C'est ainsi que tu m'annonces ta sagesse. Aujourd'hui, tu t'es levé pour moi, muet sur les mers écumantes. Ton amour et ta pudeur se révèlent à mon âme écumante. Tu es venu à moi, beau et voilé de ta beauté. Tu me parles sans parole, te révélant par ta sagesse. Ah, que n'ai-je deviné toutes les pudeurs de ton âme? Tu es venu à moi avant le soleil, à moi qui suis le plus solitaire. Nous sommes amis depuis toujours. Notre tristesse, notre épouvante et notre profondeur nous sont communes. Le soleil même nous est commun. Nous ne nous parlons pas parce que nous savons trop de choses. Nous nous taisons et, par des sourires, nous nous communiquons notre savoir. N'es-tu pas la lumière jaillie de mon foyer? N'es-tu pas l'âme sœur de mon intelligence? Nous avons tout appris ensemble. Ensemble, nous avons appris à nous élever au-dessus de nous, vers nous-mêmes, et à avoir des sourires sans nuages. Sans nuages, souriant avec des yeux clairs, à travers des lointains immenses, quand au-dessous de nous bouillonne, comme la pluie, la contrainte, et le but et la faute. Et quand je marchais seul, de quoi mon âme avait-elle faim dans les nuits et sur les sentiers de l'erreur? Et quand je gravissais les montagnes, qui cherchais-je sur les sommets, si ce n'est toi? Et tous mes voyages, et toutes mes ascensions, qu'était-ce sinon un besoin et un expédient pour le malhabile? Toute ma volonté n'a pas d'autre but que celui de prendre son vol, de voler dans le ciel. Et qu'est-ce que je haïssais plus que les nuages qui passent et tout ce qui te ternit? Je haïssais même ma propre haine puisqu'elle te ternissait. J'en veux aux nuages qui passent, ces chats sauvages qui rampent. Ils nous prennent à tous deux ce que nous avons en commun, l'immense et infinie affirmation des choses. Nous en voulons à ces médiateurs et à ces mêleurs, les nuages qui passent, à ces êtres mixtes et indécis qui ne savent ni bénir ni maudire du fond du cœur. Je préfère me cacher dans le tonneau sans voir le ciel ou m'enfouir dans l'abîme que de te voir, toi, ciel de lumière, terni par les nuages qui passent. Et souvent, j'ai eu envie de les fixer avec des éclairs dorés et, pareil au tonnerre, de battre la timbale sur leur ventre de chaudron. Timbalier en colère, puisqu'il me dérobe ton affirmation, ciel pur au-dessus de moi, ciel clair, abîme de lumière, puisqu'il te dérobe mon affirmation. Car je préfère le bruit et le tonnerre et les outrages du mauvais temps à ce repos de chat circonspect et hésitant. Et parmi les hommes, eux aussi, ce sont ces êtres mixtes et indécis, marchant à pas de loup, ces nuages qui passent, doutant et hésitant, que je hais le plus. Et qui ne sait bénir doit apprendre à maudire. Ce clair enseignement m'est tombé d'un ciel clair. Cette étoile brille à mon ciel, même dans les nuits noires. Mais moi je bénis et j'affirme toujours, pourvu que tu sois autour de moi, ciel clair, abîme de lumière. C'est alors que je porte dans tous les abîmes ma bienfaisante affirmation. Je suis devenu celui qui bénit et qui affirme, et j'ai longtemps lutté pour cela. je fus un lutteur, afin d'avoir un jour les mains libres pour bénir. Ceci, cependant, est ma bénédiction, être au-dessus de chaque chose comme son propre ciel, son toit arrondi, sa cloche d'azur et son éternelle quiétude. Et bienheureux celui qui bénit ainsi. Car toutes les choses sont baptisées à la source de l'éternité, par-delà le bien et le mal. Mais le bien et le mal ne sont eux-mêmes que des ombres fugitives, d'humides afflictions et des nuages passagers. En vérité, c'est une bénédiction et non une malédiction que d'enseigner « Sur toute chose se trouve le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel pétulance. » Par hasard, c'est là la plus vieille noblesse du monde. Je l'ai rendue à toutes les choses. Je les ai délivrées de la servitude du but. Cette liberté et cette sérénité céleste, je les ai placées comme des cloches d'azur sur toutes les choses, lorsque j'ai enseigné qu'au-dessus d'elles et par elles, aucune volonté éternelle n'affirmait sa volonté. J'ai mis en place de cette volonté, cette pétulance et cette folie lorsque j'ai enseigné « Il y a une chose qui sera toujours impossible, c'est d'être raisonnable. » Un peu de raison, cependant, un grain de sagesse dispersé d'étoile en étoile. Ce levain est mêlé à toutes les choses. C'est à cause de la folie que la sagesse est mêlée à toutes les choses. Un peu de sagesse est possible. Mais j'ai trouvé dans toutes choses cette certitude bienheureuse. Elle préfère danser sur les pieds du hasard. Ô ciel au-dessus de moi, ciel pur et haut, ceci est maintenant pour moi ta pureté, qu'il n'existe pas d'éternelle araignée et de toile d'araignée de la raison. Que tu sois un lieu de danse pour les hasards divins, que tu sois une table divine pour le jeu de dés et les joueurs divins. Mais tu rougis, ai-je dit des choses inexprimables? Ai-je maudit en voulant te bénir? Ou bien, est-ce la honte d'être deux qui te fait rougir? Me dis-tu de m'en aller et de me taire puisque maintenant le jour vient? Le monde est profond, et plus profond que le jour ne l'a jamais pensé. Il y a des choses qu'il faut taire devant le jour. Mais le jour vient, séparons-nous donc. Ô ciel au-dessus de moi, ciel pudique et ardent! Ô bonheur avant le soleil levant! Le jour vient, séparons-nous donc. Ainsi parlait Zarathoustra. De la vertu qui rapetisse. Lorsque Zarathoustra revint sur la terre ferme, il ne se dirigea pas droit vers sa montagne et sa caverne, mais il fit beaucoup de courses et de questions, s'informant de ceci et de cela, ainsi qu'il disait de lui-même en plaisantant, « Voici un fleuve qui, en de nombreux méandres, remonte vers sa source. » Car il voulait apprendre quel avait été le sort de l'homme pendant son absence, s'il était devenu plus grand ou plus petit. Et un jour, il aperçut une rangée de maisons nouvelles. Alors il s'étonna et il dit, « Que signifient ces maisons? En vérité, nulle grande âme ne les a bâties en symbole d'elles-mêmes. Un enfant stupide les aurait-il tirées de sa boîte à jouer, alors qu'un autre enfant les remette dans la boîte? Et ces chambres et ces mansardes, des hommes peuvent-ils en sortir et y entrer? Elles me semblent faites pour des poupées empanachées de soie, ou pour des petits chats gourmands qui aiment à se laisser manger. » Et Zarathoustra s'arrêta et réfléchit. Enfin, il dit avec tristesse, « Tout est devenu plus petit. Je vois partout des portes plus basses. Celui qui est de mon espèce peut encore y passer, mais il faut qu'il se courbe. Oh, quand retournerai-je dans ma patrie où je ne serai plus forcé de me courber devant les petits ? Et Zarathoustra soupira et regarda dans le lointain. Le même jour, cependant, il prononça son discours sur la vertu qui rapetisse. 2. Je passe au milieu de ce peuple et je tiens mes yeux ouverts. Les hommes ne me pardonnent pas de ne pas être envieux de leur vertu. Ils aboient après moi parce que je leur dis « À des petites gens, il faut de petites vertus. » Et parce que je n'arrive pas à comprendre que l'existence des petites gens soit nécessaire. Je ressemble au coq dans une basse-cour étrangère que les poules même poursuivent à coups de bec. Mais je n'en veux pas à ces poules à cause de cela. Je suis poli envers elles comme envers tous les petits désagréments. Être épineux envers les petits me semble une sagesse digne des hérissons. Ils parlent tous de moi quand ils sont assis le soir autour du foyer. Ils parlent de moi, mais personne ne pense à moi. C'est là le nouveau silence que j'ai appris à connaître. Le bruit qu'ils font autour de moi déploie un manteau sur mes pensées. Ils potinent entre eux. Que nous veut ce sombre nuage ? Veillons à ce qu'il ne nous amène pas une épidémie. Et dernièrement, une femme tira contre elle son enfant qui voulait s'approcher de moi. « Éloignez les enfants » cria-t-elle. « De tels yeux brûlent les âmes des enfants. » Ils toussent quand je parle. Ils croient que l'atout est une objection contre les grands vents. Ils ne devinent rien du bruissement de mon bonheur. Nous n'avons pas encore le temps pour Zarathoustra. Voilà leur objection. Mais qu'importe un temps qui n'a pas le temps pour Zarathoustra. Lors même qu'ils me glorifient, comment pourrais-je m'endormir sur leur gloire ? Leur louange est pour moi une ceinture épineuse. Elle me démange encore quand je l'enlève. Et cela aussi, je l'ai appris au milieu d'eux. Celui qui loue fait semblant de rendre ce qu'on lui a donné, mais en réalité veut qu'on lui donne davantage. Demandez à mon pied si leur manière de louer et d'allécher lui plaît. En vérité, il ne veut ni danser, ni se tenir tranquille selon une telle mesure et un tel tic-tac. Ils essaient de me faire l'éloge de leurs petites vertus et de m'attirer vers elles. Ils voudraient bien entraîner mon pied au tic-tac du petit bonheur. Je passe au milieu de ce peuple et je tiens mes yeux ouverts. Ils sont devenus plus petits et ils continuent à devenir toujours plus petits. C'est leur doctrine du bonheur et de la vertu qui en est la cause. Car ils ont aussi la modestie de leurs vertus, parce qu'ils veulent avoir leurs aises. Mais seule une vertu modeste se comporte avec les aises. Ils apprennent aussi à marcher à leur manière et à marcher en avant. C'est ce que j'appelle aller clopin-clopant. C'est ainsi qu'ils sont un obstacle pour tous ceux qui se hâtent. Et il y en a qui vont en avant tandis qu'ils regardent en arrière, le cou tendu. Volontiers je me heurterai à de tels corps. Les pieds et les yeux ne doivent ni mentir ni se démentir. Mais il y a beaucoup de mensonges parmi les petites gens. Quelques-uns d'entre eux veulent, mais la plupart ne sont que voulus. Quelques-uns d'entre eux sont sincères, mais la plupart sont de mauvais comédiens. Il y a parmi eux des comédiens sans le savoir et des comédiens sans le vouloir. ceux qui sont sincères sont toujours rares, surtout les comédiens sincères. Les qualités de l'homme sont rares ici. C'est pourquoi les femmes se masculinisent. Car celui qui est assez homme sera seul capable d'affranchir dans la femme la femme. Et voici la pire des hypocrisies que j'ai trouvées parmi eux. Ceux qui ordonnent feignent eux aussi les vertus de ceux qui obéissent. Je sers, tu sers, nous servons. Ainsi psalmodie l'hypocrisie des dominants. Et malheur à ceux dont le premier maître n'est que le premier serviteur. Hélas, la curiosité de mon regard s'est aussi égarée vers leur hypocrisie. Et j'ai bien deviné leur bonheur de mouche et leur bourdonnement vers les vitres ensoleillées. Tant il y a de bonté, tant il y a de faiblesse, tant il y a de justice et de compassion, tant il y a de faiblesse. Ils sont ronds, loyaux et bienveillants les uns envers les autres, comme les grains de sable sont ronds, loyaux et bienveillants envers les grains de sable. Embrasser modestement un petit bonheur, c'est ce qu'ils appellent résignation. Et du même coup, il louche déjà modestement vers un nouveau petit bonheur. Dans leur simplicité, ils n'ont au fond qu'un désir, que personne ne leur fasse mal. C'est pourquoi ils sont prévenants envers chacun et ils lui font du bien. Mais c'est là de la lâcheté, bien que cela s'appelle vertu. Et quand il arrive à ces petites gens de parler avec rudesse, je n'entends dans leur voix que leur enrouement, car chaque coup de vent les enroue. Ils sont rusés, leurs vertus ont des doigts agiles, mais il leur manque les poings, leurs doigts ne savent pas se cacher derrière leurs poings. La vertu, c'est pour eux ce qui rend modeste et apprivoisé. C'est ainsi qu'ils ont fait du loup un chien et de l'homme même le meilleur animal domestique de l'homme. Nous avons placé notre chaise au milieu. C'est ce que me dit leur hilarité. Et à la même distance des gladiateurs mourants et des truies joyeuses. Mais c'est là de la médiocrité, bien que cela s'appelle modération. 3. Je passe au milieu de ce peuple et je laisse tomber maintes paroles, mais ils ne savent ni prendre ni retenir. Ils s'étonnent que je ne sois pas venu pour blâmer les débauches et les vices et en vérité, je ne suis pas venu non plus pour mettre en garde contre les pickpockets. Ils s'étonnent que je ne sois pas prêt à déniaiser et à aiguiser leur sagesse, comme s'ils n'avaient pas encore assez de sages subtils dont la voix grince comme un crayon d'ardoise. Et quand je crie « Maudissez tous les lâches démons qui sont en vous et qui gémiraient volontiers !» qui voudrait croiser les mains et adorer. Alors ils crient « Zarathoustra est impie !» Et leur professeur de résignation crie plus fort. Mais c'est précisément à eux qu'il me plaît de crier à l'oreille. « Oui, je suis Zarathoustra, l'impie !» Ces professeurs de résignation, partout où il y a petitesse, maladie éteigne, ils rampent comme des poux, et mon dégoût seul m'empêche de les écraser. Eh bien, voici le sermon que je fais pour leurs oreilles. Je suis Zarathoustra, l'impie, qui dit « Qui est-ce qui est plus impie que moi, pour que je me réjouisse de son enseignement ?» Je suis Zarathoustra, l'impie. Où trouverai-je mes semblables? Mes semblables sont tous ceux qui se donnent d'eux-mêmes leur volonté et qui se débarrassent de toute résignation. Je suis Zarathoustra, l'impie. Je fais bouillir dans ma marmite tout ce qui est hasard. Et ce n'est que lorsque le hasard est cuit à point que je lui souhaite la bienvenue pour en faire ma nourriture. Et en vérité, maint hasard s'est approché de moi en maître. Mais ma volonté lui parle d'une façon plus impérieuse encore. Et aussitôt, il se mettait à genoux devant moi en suppliant, me suppliant de lui donner asile et accueil cordial, et me parlant d'une manière flatteuse, « Vois donc, Zarathoustra, il n'y a qu'un ami pour venir ainsi chez un ami. Mais pourquoi parler quand personne n'a mes oreilles? Ainsi, je veux crier à tous les vents. Vous devenez toujours plus petits, petites gens. Vous vous émiettez, vous qui aimez vos aises. Vous finirez par périr. À cause de la multitude de vos petites vertus, de vos petites omissions, à cause de votre continuelle petite résignation. Vous ménagez trop, vous cédez trop. C'est de cela qu'est fait le sol où vous croissez. Mais pour qu'un arbre devienne grand, il doit pousser ses dures racines autour de durs rochers. Ce que vous omettez aide à tisser la toile de l'avenir des hommes. Votre néant même est une toile d'araignée, et une araignée qui vit du sang de l'avenir. Et quand vous prenez, c'est comme si vous voliez, ô petit vertueux. Pourtant, parmi les fripons même, l'honneur parle. Il faut voler seulement là où on ne peut pas piller. Cela se donne. Telle est aussi une doctrine de la résignation. Mais moi je vous dis, à vous qui aimez vos aises, cela se prend, et cela prendra de vous toujours davantage. Hélas, que ne vous défaites-vous de tous ces demi-vouloirs? Que ne vous décidez-vous pour la paresse comme pour l'action? Hélas, que ne comprenez-vous ma parole? Faites toujours ce que vous voudrez, mais soyez d'abord de ceux qui peuvent vouloir. Aimez toujours votre prochain comme vous-même, mais soyez d'abord de ceux qui s'aiment eux-mêmes. Qui s'aime avec le grand amour, avec le grand mépris. Ainsi parle Zarathoustra, l'impie. Mais pourquoi parler quand personne n'a mes oreilles? Il est encore une heure trop tôt pour moi. Je suis parmi ce peuple mon propre précurseur, mon propre chant du coq dans les rues obscures. Mais leur heure vient. Et vient aussi la mienne. D'heure en heure, ils deviennent plus petits, plus pauvres, plus stériles. Pauvre herbe, pauvre terre. Bientôt, ils seront devant moi comme de l'herbe sèche, comme une steppe, et en vérité, fatigués d'eux-mêmes, et plutôt que d'eau, altérés de feu. Ô heure bienheureuse de la foudre, ô mystère d'avant-midi, un jour je ferai d'eux des feux courants et des prophètes aux langues de flammes. Ils prophétiseront avec des langues de flammes. Il vient, il est proche, le grand midi. Ainsi parlait Zarathoustra. Sur le mont des Oliviers. L'hiver, hôte malin, est assis dans ma demeure. Mes mains sont bleues de l'étreinte de son amitié. Je l'honore, cet hôte malin, mais j'aime à le laisser seul. J'aime à lui échapper et si l'on court bien, on finit par y parvenir. Avec les pieds chauds, les pensées chaudes, je cours où le vent se tient quoi ? Vers le coin ensoleillé de ma montagne des oliviers. C'est là que je ris de mon hôte rigoureux, et je lui suis reconnaissant d'attraper chez moi les mouches et de faire taire beaucoup de petits bruits, car il n'aime pas entendre bourdonner une mouche, ou même deux. Il rend solitaire jusqu'à la rue, en sorte que le clair de lune se met à avoir peur la nuit. Il est un hôte dur, mais je l'honore, et je ne prie pas le dieu ventru du feu comme font les efféminés. Il vaut encore mieux claquer des dents que d'adorer les idoles. Telle est ma nature. Et j'en veux surtout à toutes les idoles du feu qui sont ardentes, bouillonnantes et mornes. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime en hiver mieux qu'en été. Je me moque mieux de mes ennemis. Je m'en moque avec plus de courage depuis que l'hiver est dans ma maison. Avec courage, en vérité, même quand je me blottis dans mon lit. Car alors mon bonheur enfoui rit et fanfaronne encore. Et mon rêve mensonger se met à rire lui aussi. Pourquoi ramper ? Jamais encore, de toute ma vie, je n'ai rampé devant les puissants. Et si j'ai jamais menti, c'était par amour. C'est pourquoi je suis content, même dans un lit d'hiver. Un lit simple me réchauffe mieux qu'un lit luxueux. Car je suis jaloux de ma pauvreté, et c'est en hiver que ma pauvreté m'est le plus fidèle. Je commence chaque jour par une méchanceté. Je me moque de l'hiver en prenant un bain froid. C'est ce qui fait grogner mon ami sévère. J'aime aussi à le chatouiller avec un petit cierge, afin qu'il permette enfin au ciel de sortir de l'aube cendrée. Car c'est surtout le matin que je suis méchant. À la première heure, quand les seaux grincent à la fontaine et que les chevaux hennissent par les rues grises, j'attends alors avec impatience que le ciel s'illumine, le ciel d'hiver à la barbe grise, le vieillard à la tête blanche. Le ciel d'hiver, silencieux, qui laisse parfois même le soleil dans le silence. Est-ce de lui que j'appris les longs silences illuminés ? Ou bien est-ce de moi qu'il les a appris ? Ou bien chacun de nous les a-t-il inventés lui-même ? Toutes les bonnes choses ont une origine multiple. Toutes les bonnes choses folâtres sautent de plaisir dans l'existence. Comment ne ferait-elle cela qu'une seule fois ? Le long silence, lui aussi, est une bonne chose folâtre. Et pareil à un ciel d'hiver, mon visage est limpide et le calme est dans mes yeux. Comme le ciel d'hiver, je cache mon soleil et mon inflexible volonté de soleil. En vérité, j'ai bien appris cet art et cette malice d'hiver. C'était mon art et ma plus chère méchanceté d'avoir appris à mon silence de ne pas se trahir par le silence. Par le bruit des paroles et des dés, je m'amuse à duper les gens solennels qui attendent. Je veux que ma volonté et mon but échappent à leur sévère attention. Afin que personne ne puisse regarder dans l'abîme de mes raisons et de ma dernière volonté, j'ai inventé le long et clair silence. J'ai trouvé plus d'un homme malin qui voilait son visage et qui troublait ses profondeurs afin que personne ne puisse regarder au travers et voir jusqu'au fond. Mais c'est justement chez lui que venaient les gens rusés et méfiants, amateurs de difficultés, On lui pêchait ses poissons les plus cachés. Cependant, ce qui reste clair et brave et transparent sont ceux que leur silence trahit le moins. Ils sont si profonds que l'eau la plus claire ne révèle pas ce qu'il y a au fond. Silencieux ciel d'hiver à la barbe de neige, tête blanche aux yeux clairs au-dessus de moi, ô divin symbole de mon âme et de la pétulance de mon âme. Et ne faut-il pas que je me cache comme quelqu'un qui a avalé de l'or, afin que l'on ne m'ouvre pas l'âme? Ne faut-il pas que je monte sur des échasses pour qu'il ne voie pas mes longues jambes, tous ces tristes envieux autour de moi, toutes ces âmes enfumées, renfermées, usées, moisies, aigries? Comment leur envie saurait-elle supporter mon bonheur? C'est pourquoi je ne leur montre que l'hiver et la glace qui sont sur mes sommets. Je ne leur montre pas que ma montagne est entourée de toutes les ceintures de soleil. Ils n'entendent siffler que mes tempêtes hivernales et ne savent pas que je passe aussi sur de chaudes mers, pareilles à des vents du sud langoureux, lourds et ardents. Ils ont pitié de mes accidents et de mes hasards, mais mes paroles disent « Laissez venir à moi le hasard, il est innocent comme un petit enfant ». Comment saurait-il supporter mon bonheur si je ne mettais autour de mon bonheur des accidents et des misères hivernales, des toques de fourrure et des manteaux de neige? Si je n'avais moi-même pitié de leur apitoiement, l'apitoiement de ces tristes envieux? Si moi-même je ne soupirais et ne grelottais pas devant eux en me laissant envelopper patiemment dans leur pitié? Ceci est la sagesse folâtre et la bienveillance de mon âme, qu'elle ne cache point son hiver et ses vents glacés. Elle ne cache pas même ses engelures. Pour l'un, la solitude est la fuite du malade, pour l'autre, la fuite devant le malade. Qu'il m'entende gémir et soupirer à cause de la froidure de l'hiver, tous ces pauvres et louches vauriens autour de moi. Avec de tels gémissements et de tels soupirs, je fuis leur chambre chauffée. Qu'ils me plaignent et me prennent en pitié à cause de mes engelures. Il finira par geler à la glace de sa connaissance. C'est ainsi qu'ils gémissent. Pendant ce temps, les pieds chauds, je cours çà et là sur ma montagne des oliviers. Dans le coin ensoleillé de ma montagne des oliviers, je chante et je me moque de toute compassion. Ainsi chantait Zarathoustra.